après toutes ces interventions. On va laisser la parole s'il y a quelques questions dans la salle. Il y a quelqu'un qui souhaite se lancer. Est-ce qu'il y a des questions?
Je vais faire un TEDx à la fin de l'année.
Ah ouais,
Et écrire un bouquin, oui.
On s'arrête ce matin avec les personnes, donc si vous avez des questions à poser, c'est maintenant que j'avais.
Oui, mais on est en pleine start-up, avec le recyclage.
Bonjour. Alors moi j'ai adoré déjà ce temps d'histoire sur l'épidémie, etc. J'ai beaucoup partagé votre réflexion parce que c'est un ressenti que j'ai eu sur ressenti un peu naïf, hein, mais c'est vrai que quand j'ai pensé tiens un événement commun qui est un ennemi commun sans en être un parce que ce n'est pas un être humain autre ou une autre religion, etc. J'ai eu cette illusion à un moment de tiens est-ce qu'un rassemblement est possible, une unité peut-être. J'ai très vite déchanté, mais c'était une belle naïveté, j'ai beaucoup apprécié ce moment. En fait, à la base, la question que je voulais vous poser, bon, déjà je voulais partager ce ressenti, c'était est-ce que vous êtes disponible, vous connaissez des gens qui seraient intéressés pour partager ce genre de temps sur des cafés des sciences, sur la question de l'histoire, de la médecine et du rapport aux épidémies, parce qu'on est en train de préparer... Pardon ? Vous-même, peut-être.
Non, il y a plein de gens qui travaillent sur l'histoire des épidémies.
Et sur Poitiers, j'entends.
Parce que c'est oui. Là que ça nous concerne. Sur cette thématique, la fragmentation de la société, bon, j'en connais. Enfin, il y a moi déjà. Oui, alors, je vous laisse parler.
Oui, je disais, je ne suis pas obligé d'être maintenant, parce que ça, c'est un moment pour s'exprimer publiquement, mais en tout cas, je pose cette idée, si je peux après vous parler pour peut-être échanger des contacts ou vous parler plus en détail, ce serait avec plaisir.
Oui.
Et j'ai beaucoup apprécié les autres interventions aussi.
Oui, simplement, ce que je voulais dire, merci de me poser la question et donc implicitement de m'inviter, ou d'inviter des confrères et des collègues ou des consoeurs, évidemment. Disons. Le point de vue de l'historien, par rapport à ces thématiques, c'est un point de vue un peu sévère parce que il y a notamment un colloque auquel je participe justement avec Jean-François Delfrécy fin septembre à la faculté de médecine de Paris sur les implications éthiques de la Covid-19 et de la gestion de la Covid-19. Et il y a plein de conséquences. Pas que des trucs négatifs, hein, il y a aussi des éléments positifs, mais on a souvent. Parce qu'il y a l'urgence, on agit et on réfléchit après. Et après, on dit, mince, s'il y a des erreurs, est-ce que ça ne va pas trop se voir? Après, c'est le travail du juge. Il y a le travail des médias, donc il y a des déformations. Ça aussi, ça crée des tensions. C'est-à-dire qu'on va chercher des culpabilités. On va chercher des alternatives et ça va créer des dissidences et des divergences, donc des tensions. C'est un point, en fait, qui est parfois... mal abordé ou voire pas abordé du tout comme étant écoutez, il y a les gens sérieux qui luttent contre l'épidémie et puis on a des espèces de minorités ou de groupuscules qui font n'importe quoi. Ça c'est pas aussi simple, j'allais dire. C'est pas aussi simple parce qu'à ce moment-là, il suffit d'un arsenal juridique répressif et puis c'est terminé. Même si au passage, on peut se poser des questions au niveau des libertés fondamentales. Mais la réalité, enfin, je suis vraiment content d'être venu parce que ça me permet d'avancer aussi par rapport à ce que je dois présenter dans ce colloque du 24 septembre. Parce que, en fait, on s'aperçoit, c'est le hasard du calendrier, hein, 1721, grande peste de Marseille, 2021, on est encore dans le Covid, donc pendant 3 siècles, est-ce qu'on a appris comment gérer les épidémies? Oui, mais on a toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'observe en comparant 1721, choléra, grippe espagnole, H1N1, etc. Choléra et puis grippe espagnole, enfin toutes ces grandes épidémies, on tombe toujours dans les mêmes travers. Les gouvernements ne sont pas les mêmes. la science n'est pas la même, la société a évolué, il me semble, depuis 1721, il y a des réflexes qui n'ont pas changé. Alors, ça se discute. Bah, les sociologues, on peut être d'accord avec vous. Hein. Une société d'ancien régime en 1721 avec des ordres, etc. Et puis bon, une médecine qui ne fonctionne pas. Puis là, maintenant, on a des vaccins au bout de 6 mois, 1 an. Alors après, ça veut dire que c'est l'anthropologie. Mais à ce moment-là, je vous retourne, si je puis dire, le compliment. Ça veut dire qu'il faut demander à des anthropologues de gérer les épidémies. Alors après, c'est de la philosophie, c'est plus ma fonction. Parce que personne n'a de conclusion. Disons, déjà, si on a une observation commune, c'est déjà beaucoup. Mais sur ces problématiques qui, là, sont des questions du présent, le passé a son rôle à jouer, même si, des fois, l'historien nous amène à une forme de pessimisme en disant, bah, finalement, ça change pas. Contestation du savoir, contestation de la capitale, contestation des pouvoirs, contestation de plein de choses et puis recherche de bouc émissaire. Recherche de bouc émissaire. Hein. Si c'est pas le ministre, c'est les Chinois. Si c'est pas les Chinois, c'est les vilains laboratoires qui veulent vendre des masques, des vaccins. Si c'est pas eux, c'est des professeurs de médecine aux cheveux longs qui s'accrochent à leur poste et qui sont très médiatiques. Hein, ouais. Voilà.
Ouais, je mettrai. Et vous avez dit ça en entrée de jeu. Effectivement, il y a des réflexes, de peur. Hein. Les médias aiment bien le mot peur, mort, etc. Mais il y a, vous voyez, la pensée complexe, c'est que nous, on a traité donc les masques jetables. Le masque jetable, c'est un élément de protection des hôpitaux. Donc, c'est un déchet à risque infectieux. Donc, les déchets à risque infectieux, ils ont une filière de traitement. Sauf que là, on l'a retrouvé dans le grand public. Donc, je ne vous explique pas le combat qu'on a eu, le nombre d'auditions qu'on a eu de la HCP sur le statut du masque jetable. Et du coup, c'était intéressant parce que personne n'en savait rien, en fait. Et on a avancé, pris des risques. Donc, c'est peut-être le rôle de l'entrepreneur de prendre des risques aussi. Et que l'État nous a laissé un peu reprendre des risques, pour reconnaître ça, sans le dire. Ça aurait mal tourné. Je pense que je serai en prison, donc je ne pourrais pas vous parler. Mais du coup, ça ouvre aussi des brèches sur des représentations et des classements des choses. Il faut peut-être regarder ce côté positif des choses en disant bah ouais, le coût de la filière d'Asterix, ça coûte à la collectivité des sommes monstrueuses. C'est pas très écologique. Hein. Et du coup, là, on est en train de réfléchir, notamment avec beaucoup d'hôpitaux, sur la gestion des déchets des hôpitaux qui a explosé pendant cette période-là et qui coûte à la planète, aux contribuables, et puis à tout le monde des choses considérables, donc un coût considérable. Donc voilà, c'est peut-être aussi des moments où on peut réfléchir autrement. Et ce qui était rigolo, c'est que non seulement on a eu des médias locaux, mais il y a des gens du Japon qui sont venus nous voir. Ouais, la télé japonaise qui est venue nous voir, et américaine aussi, pour voir comment... Voilà, il y a quelque chose qui travaille autour de ça, la protection, etc. Et je pense que ça, c'est des vraies questions qui peuvent alimenter le débat sur et cette complexité-là. Alors, il y a une chose qui change quand même par rapport aux anciennes épidémies, c'est la puissance industrielle. Je pense que ça, c'est un élément, on l'a bien vu, la course à l'échalote sur les équipements et les protections, ça a été quand même assez tendu. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'est toujours pas un peu sorti de ça et les conséquences de ça.
Bonjour, moi j'ai beaucoup apprécié les différents intervenants. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'intervention de l'historien, mais aussi dans celle du philosophe, c'est que il me semblait qu'à un moment donné, il n'y avait pas forcément de prise en compte, justement, chez l'historien, ça m'a un peu étonné, des transformations sociales dans l'histoire. Vous avez souligné tout à l'heure que il y avait des récurrences et quasiment des choses qui revenaient comme avant. Ça m'a un peu frappé. Et Pascal, dans son première intervention, avait insisté dans les sciences sociales sur cet effet de l'histoire, sur l'effet de la transformation des contextes, etc. Et j'aurais aimé demander au philosophe qui a insisté sur les changements de sens des mots, mais peut-être pas forcément des structures sociales. Aujourd'hui, dans les deux cas, on voit aujourd'hui une très forte, on a parlé d'une décrédibilisation du politique, et une demande de toute une série d'acteurs de participer, d'intervenir. Voilà. L'historien a souligné que des révoltes, il y en avait eu de tout temps, et qu'en tout cas là, il y avait des réactions, grosso modo, des périphéries contre les centres. Est-ce que vous pourriez essayer de nous dire si, selon vous, malgré tout, il y a quelques changements dans la formalisation des révoltes? Aujourd'hui, on parlerait de participants, mais les participants, ils veulent aussi sans se révolter de la même façon, mais enfin, ils voudraient qu'on ait une autre forme d'accès au pouvoir, ou en tout cas à l'action commune. Donc, est-ce que... Et puis, pour la gentillesse, est-ce que cette question de la participation ou cette question des révoltes, elle intervient, ou est-ce qu'elle rentre en croisement avec la question de la gentillesse? Parce que quand on participe, quelquefois, on est peut-être fondé à ne pas être gentil. Je veux dire que on est fondé, comme vous le disiez tout à l'heure, à être dans une empathie qui peut être quelquefois... pas empathique, justement, qui peut être, mais peut-être avec un bon droit, c'est-à-dire qu'on a une expertise. Voilà. En quoi les structures sociales dans le temps peuvent, et notamment cette histoire de la nouvelle volonté des acteurs d'intervenir, d'être des citoyens, d'être partie prenante. Je suis un peu trop loin, excusez-moi.
Emmanuel Jafflin, si vous voulez répondre.
J'entends pas votre voix. Et comme vous parlez avec le masque, moi je viens d'une ville où on a été libéré du masque, à côté de Paris, une ville que vous connaissez pas, qui s'appelle Sceaux. Et donc, je suis plus habitué au masque, et comme je suis vieux et sourd, quand vous parlez avec le masque, j'entends moins. Je veux bien répondre à votre question. Vous me posiez la question de savoir si ceux qui manifestent contre le vaccin et le masque, par exemple, sont gentils. Non, c'était pas ça. Alors, je veux bien que vous la reformuliez.
Je ne pensais pas aux gens qui étaient du côté des antivax, je pensais plutôt à ce mouvement social qui demande de la participation, qui à la fois essaye de désinvestir le politique, mais sans désinvestir le collectif, qui essaye de penser très très différemment justement la démocratie. Et
je réponds à votre question. J'ai écrit une archéologie des ronds-points, qui est une prise de parti philosophique pour les Gilets jaunes, qu'aucun éditeur m'a pris et que j'ai auto-publié sur Amazon. C'est l'étrangeté de ce monde. Et je pense qu'effectivement, ceux qui manifestent sont pas méchants. De là, en faire des gentils hommes, c'est autre chose. Mais les Gilets jaunes, je sais pourquoi ils ont quitté leur quartier pour s'installer assez loin, pourquoi ils utilisent beaucoup leur voiture pour se déplacer. Et ça, notre structure politique s'en fout. C'était une nouvelle manifestation sociale qui a été tuée et écrasée par Macron. C'est pour ça que quand je le citais tout à l'heure pour dire qu'il reconnaissait le pouvoir de l'économique, je le soutiens uniquement pour ça. Ça répond à votre question? Lisez mon archéologie du rond-point.
C'est-à-dire que pour moi, la demande de participation, elle est beaucoup plus ancienne que les Gilets jaunes. Elle a vraiment...
Ah oui, je remonte à la Révolution parce qu'ils ont créé des cahiers de doléances. Hein. Il y a un continuum, je suis d'accord.
Vous pourrez continuer à échanger, j'espère. En tout cas, on va clore cette table ronde qui a été vraiment très riche. Merci encore une fois aux intervenants et puis aussi
et merci au public
pour les questions. Peut-être juste un petit mot pour conclure et essayer de faire synthèse, même si c'est difficile évidemment de faire synthèse de tout ce qui a été dit. En tout cas, on a pu avoir une approche réflexive qui nous montre vraiment le poids de l'histoire aussi sur les territoires et les crises. On a pu avoir aussi en parallèle la mise en évidence d'enjeux très forts d'un point de vue industriel et territorial. Avec le constat qu'il faut trouver des nouvelles solutions dans l'industrie, réfléchir à la valeur créée par les territoires et comment peut-on faire ensemble pour justement arriver à ça. Et puis face à ça, on a quand même cette France, ces deux Frances plutôt fragmentées,
cette fragmentation des territoires qui est très intéressante dans le sens où elle met en évidence des rapports de force, mais aussi, vous l'avez dit à plusieurs égards, le besoin aussi de rassembler plutôt que de confronter pour pouvoir avancer. Le besoin de tisser des liens, grâce notamment à la gentillesse, des liens sociaux, pour pouvoir aller dans un sens meilleur et pouvoir construire et donner de la créativité, donner le goût aux autres. Ça, c'est aussi la question du modèle, le modèle qui ne valorise pas aujourd'hui la gentillesse et comment créer des liens justement pour pouvoir avancer, pour donner du pouvoir, le pouvoir d'agir justement comme on parlait. Et je trouve que l'exemple de Plaxtil est quand même très illustrateur. Comme nous le rappelle Jean-Marc, c'est l'importance des rencontres et du lien qui s'est fait et qui a permis la créativité et de créer cette entreprise qui répond justement aux nouveaux enjeux de l'urgence climatique. Et je pense que de manière générale, Jean-Marc et son management dans l'entreprise illustrent vraiment bien cette capacité à donner, comme elle a été évoquée dans la définition de la gentillesse, donner dans l'entreprise, mais aussi donner à l'extérieur pour pouvoir avoir de la créativité sur les territoires. Donc merci beaucoup pour vos riches interventions à chacun et puis bon appétit à tout le monde. Et
faire
suite.
De l'entreprise the gentle place to work.
Juste un mot peut-être. Tout d'abord, merci Marie d'avoir animé cette table ronde. Et juste un mot, donc on reprend à 14h par la table ronde animée par Pierre Perrault ici présent. Mais je voulais signaler juste au passage, et on n'a pas encore les éléments du programme, mais on vous les fournira. Ces deux jours se déroulent ici à l'Espace Mendès France, mais la troisième journée aura lieu le 13 octobre, mais précisément dans l'entreprise CDA Développement. Et ça sera consacré, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Emmanuel Jaffelin, l'entreprise comme objet politique de la cité. Et bien, ça sera vraiment le thème de la journée, hein, entièrement consacré à ça. Et on aura deux intervenants, entre autres Pierre Vermeuren et Paul Melun, qui a écrit un livre qui s'appelle « Tous souverains, point d'interrogation ». Donc ça sera la suite et la poursuite de ces deux journées ici, mais dans une entreprise. Donc à tout à l'heure, 14h.